Vous voulez savoir à quoi pourrait ressembler la ville de demain ? Suivez-nous.
Le mercredi 12 janvier, nous avons fait un reportage à la Cité Fertile. C'était à 10 minutes en bus de notre collège. Ce jour-là, il faisait gris et froid.
Quand nous sommes descendus à l'arrêt Jean Moulin, la première chose que nous avons vue, ce sont des entrepôts. Tout était un peu endormi. Forcément, en hiver, c'est moins vivant, mais on était quand même motivés.
La Cité Fertile est une ancienne gare de marchandises qui se situe à Pantin, en Seine-Saint-Denis. Le but de ce lieu temporaire, qui a ouvert en 2019, est d'expérimenter des solutions écologiques en milieu urbain.
Il y a des ruches, un jardin, un potager, un compost, et aussi un restaurant qui cuisine des produits de saison et souvent locaux. C'est un lieu de transition écologique. Pendant 5 ans, des gens y pratiquent différents métiers pour expérimenter des choses autour de l'écologie.
Nous sommes accueillis par Amélie et Julia. Amélie est chargée de la communication. Elle s'occupe d'organiser les activités de la Cité Fertile et d'informer les gens. Julia est chargée de l'ancrage local. Elle s'occupe des relations avec les habitants du quartier.
C'est un lieu dédié à la transition écologique et sociale. Et le but, c'est de réunir un maximum d'acteurs de l'économie environnementale, sociale et solidaire. Et pendant 4 ans, d'être un terrain d'expérimentation pour tester plein de choses pour la ville durable. Donc on va accueillir des gens qui vont expérimenter de mettre des ruches en ville. On va accueillir des gens qui veulent essayer d'expérimenter faire un potager, des toilettes sèches à technologie séparative. On va expérimenter aussi une serre, on va expérimenter une école de cuisine éco-responsable. On récupère l'eau de pluie. On a aussi mis en place des toits végétalisés. Ici, on accueille des événements avec pas mal de monde qui vient, les organisateurs. On va leur présenter une charte d'impact, on va dire, et on va essayer de les guider pour que leur événement ait le plus faible impact. Donc, par exemple, quand ils vont produire des goodies, on va leur dire, faire des goodies utiles. Un événement, ça produit aussi des déchets. On va essayer de limiter ces déchets, donc d'utiliser des gobelets recyclables, pas de vaisselle jetable. Voilà, on va guider aussi les organisateurs des événements pour avoir un minimum d'impact sur plein de sujets différents, le transport, etc. Après, on valorise aussi le circuit court pour minimiser notre impact aussi en termes de transport. Donc sur place, on a une brasserie par exemple, parce que la chose qu'on consomme le plus ici à la cité, c'est de la bière. Du coup, on a décidé d'avoir notre propre brasserie. Mais voilà, la question est comment on peut limiter au maximum. C'est pour ça qu'on accueille plein de gens pour tester plein de choses aussi. Il y a des choses qui vont marcher, d'autres pas du tout. Mais on verra en 4 ans ce qui a bien marché.
Est-ce que la Cité Fertile est payante ? Est-ce que tout le monde a accès ?
La Cité Fertile, c'est un lieu qui est gratuit, ouvert à tous, à partir de midi, tous les jours de la semaine. Nos événements vont être gratuits.
C'est ça, et on n'a pas besoin de consommer pour venir, donc on peut se poser dans notre restaurant, travailler, lire, faire ce qu'on veut, dessiner, sans rien consommer du tout, et personne ne va venir nous embêter. C'est vraiment un lieu qui appartient à tout le monde.
Pourquoi travaillez-vous à la Cité Fertile ?
Moi, je travaille à la Cité Fertile pour... Le fait que ce soit un tiers-lieu éco-culturel. Moi, j'ai toujours voulu travailler dans ces espaces de vie un peu pluridisciplinaires où on y teste plein de choses qui sont en lien avec mes valeurs. Ensuite, tout ce qui est, c'est peut-être cliché, mais l'humain, faire des choses pour l'autre et qui correspondent à ce dont il a vraiment besoin. Moi, ça m'intéresse parce que je viens de base d'une formation de design qui est du coup aller chercher les attentes et les besoins de son utilisateur. Mais après, j'ai travaillé aussi dans des associations. Et ce qui fait que la Cité Fertile, non seulement c'est un lieu super avec une équipe géniale et où on peut y faire beaucoup de choses, s'investir sur beaucoup de projets. Et on peut aussi donner un coup de main au-delà de ses propres missions, ce qui est vraiment très, très chouette.
Je travaille ici parce que c'est en rapport avec mes valeurs. J'avais envie d'avoir un travail qui a un sens, qui a un vrai but, où je sache pourquoi je viens travailler. Et là, je sais que je viens travailler parce que ça aide des projets autour de la transition écologique et sociale. Ça aide à avoir un meilleur futur. Et je voulais que mon travail tourne autour de ça aussi, pour me lever le matin et me dire « Ok, c'est bon, je sais pourquoi j'y vais ». Et aussi, la Cité Fertile, c'est très grand. Donc, il y a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours un événement. Il y a toujours plein d'animations. Et moi, je ne supportais pas de rester... derrière un bureau très 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 longtemps, donc ça correspondait à ce que je voulais.
Allez, comment ça marche du compost ?
On met des épluchures, okay. Et après ça va se décomposer.
Ouais.
Et qui après ça va créer ça.
Ça va créer ça là, exactement. Donc ici on va mettre tous les restes de la cuisine. On a visité la cuisine tout à l'heure.
Ils viennent déposer tous les restes, donc les fruits, les légumes, les coquilles d'œufs. On va pas mettre des plats en sauce parce que c'est pas du tout le même compost. Nous, on le récupère, mais on le donne à une entreprise. Par contre, tout ce qui est déchets organiques, on va le récupérer, on le met là. À côté, c'est le bac d'apport. Donc, c'est des matières sèches. Donc, c'est des feuilles, c'est des petits copeaux, etc. qu'on va rajouter. Ensuite, on va mélanger tout ça. Magie de la vie, ça va, au bout d'un moment, se décomposer. Et au bout de 6 mois, on a ce genre de compost qui est vraiment tout fin. Et là, on va voir si le compost est... Regardez, là, on voit un petit peu les petites bêtes, quoi.
Non.
Et c'est net, c'est comme ça que ça se décompose. Faut mélanger, mais voilà, je vais pas vous le refaire une deuxième fois, mais à l'intérieur aussi, il y a plein de gros vers et de grosses choses, mais c'est ça qui permet
la
décomposition des choses.
Pendant la visite, on découvre les toilettes sèches. C'est pratique d'avoir des toilettes pour les visiteurs, car il y a un restaurant et une brasserie. Mais pourquoi des toilettes sèches ? Ce sont des toilettes révolutionnaires car elles fonctionnent sans eau. Par rapport aux toilettes normales, ça économise une centaine de milliers de litres d'eau.
Ces toilettes récupèrent les matières fécales et l'urine et les divisent. L'urine retourne dans les canalisations de la ville et les matières fécales vont dans des bacs de compost. Ce compost va se transformer en engrais vert pour le potager. Comme ces toilettes n'utilisent pas d'eau, on peut parler d'une économie circulaire.
Saviez-vous que les abeilles sont essentielles pour le monde de demain ? C'est ce que nous avons appris en interviewant Volkan qui a installé 3 ruches à la cité fertile. Volkan est apiculteur.
Dans chaque ruche, il y a 50 000 abeilles, donc 150 000 en tout. Volkan s'occupe de la santé des abeilles et de produire du miel.
À la base, moi, j'ai fait mes études d'économie. J'ai fini l'université dans mon pays. J'ai travaillé dans les banques. Même en France, j'ai eu une expérience un peu plus d'un an, mais j'ai tout de suite compris et senti que, quand même, c'est pas ça que j'ai envie de faire. J'ai pas aimé rester dans le bureau. J'étais très attaché à la nature. J'ai cherché un travail qui a un lien avec la nature et un travail un peu physique, avec les mains, de voir ce qu'on fait et tout ça. Grâce à un ami, lui-même, il est devenu apiculteur, il m'a proposé. Moi, j'ai dit oui, pourquoi pas, mais j'avais un petit problème et j'avais très peur des abeilles, toutes les insectes. J'ai osé quand même, je me suis dit, allez, pourquoi pas, parce que c'est un beau métier, dans un village, auprès de Fontainebleau, c'est très sympa. 6 mois après, je me suis dit, c'est bon, c'est un métier, c'est pour moi, pour toute la vie, j'espère. Voilà, je continue depuis 11 ans quand même.
Et quelle étude avez-vous faite pour devenir apiculteur ?
C'est le seul, peut-être rare métier qui n'a pas besoin de vraiment formation. Bien sûr, il y a des formations de 9 mois. Pour savoir tout, connaître tous ces métiers-là. Moi, j'avais de la chance parce que mon ancien patron, il était partant de travailler avec quelqu'un qui n'a pas du tout expérience, mais volontaire et jeune. Moi, j'étais volontaire et jeune. Voilà, il a accepté. Il m'a transféré tous ses savoir-faire parce que c'était une troisième génération quand même qui exerçait ce métier. En fait, il connaissait pas mal de choses. J'ai appris sur terrain, si vous voulez.
Quand avez-vous créé Citybees ?
Je savais qu'il y a des entreprises qui installent des ruches. J'ai commencé à réfléchir petit à petit. Je me suis dit, je vais créer mon entreprise. Elle s'appelle Citybees. Depuis 5 ans, j'installe des ruches à Paris et proche banlieue, uniquement pour sensibiliser le public. Hein. C'est le cœur de métier. Les abeilles, il ne faut pas qu'elles deviennent esclaves d'un apiculteur. On doit d'abord respecter la vie des abeilles. Moi, je sais combien de kilos de miel pour nos abeilles. Je laisse la plupart des temps de tranquille. J'interviens pas souvent. Quand j'interviens, j'essaie de faire des gestes très doux et tout ça. Mais après, je récupère sous-production. Voilà, sous-production. Ça, c'est qui est très, très important. Mais il y a certains apiculteurs, malheureusement, on peut pousser aux abeilles de produire plus. Mais là, c'est pas ça mon objectif. C'est pour ça que je suis devenu apiculteur urbain. C'est mon objectif, c'est pas forcément faire du miel et vendre du miel.
Y a-t-il beaucoup d'abeilles en ville ?
Si vous voulez, c'est Paris, c'est la capitale des abeilles. Il y a beaucoup d'abeilles dans Paris.
Les abeilles s'acclimatent-elles bien au passage de la campagne à la ville ?
Oui, on peut dire ça, oui. Déjà, il y a plus de fleurs, il y a plus de variétés de fleurs, il y a microclimat. Certes, il y a une pollution d'air, mais on a bien constaté que ça ne les dérange pas. Ça rentre pas dans le miel non plus, parce que chaque année, on fait des analyses régulières. Le miel de la ville, c'est vraiment propre.
Donc, elles sont pas en danger ?
Les abeilles sont en danger, mais pas forcément en ville. Plutôt en dehors de ville, parce que... Déjà, l'avantage, on est loin de champs agricoles. Il n'y a pas de pesticides. C'est les pesticides qui tuent la plupart du temps de nos abeilles. Malheureusement, il y a pas mal d'agriculteurs qui utilisent des pesticides. En plus, réchauffement climatique, des frelons asiatiques, de certaines maladies d'abeilles, et monoculture, parce qu'il y a des milliers et milliers d'hectares de l'orge, de betteraves et machin, et tout ça, il y a plus de fleurs maintenant. Et les apiculteurs cherchent des fleurs à la campagne. Et tout ça, c'est vraiment une catastrophe. S'il n'y a pas d'abeilles, il n'y a pas de vie.
Quelle est l'importance des abeilles pour le monde de demain?
Si on parle de monde de demain, on a besoin des abeilles. Voilà. S'il n'y a pas d'abeilles, il n'y aura pas de monde de demain. Les abeilles, sont des sources de biodiversité. La clé de la biodiversité, plutôt, on peut dire, 80% des plantes pollinisées grâce aux abeilles pour manger des fruits et légumes et grâce aux abeilles. S'il n'y a pas d'abeilles, voilà, il n'y a pas de vie.
Pourquoi êtes-vous allé à la Cité Fertile?
Cityboost, c'est une entreprise ultra engagée. D'ailleurs, notre slogan, faisons plus que produire du miel. En fait, le but principal, c'est pas de vendre du miel. Cité Fertile, en fait, ça me permet de faire des animations avec parfois des habitants, parfois des visiteurs. L'année dernière, on a fait la récolte avec plus de 50 personnes. On a discuté, j'ai fait une petite animation. Ça, en fait, Cité Fertile me permet de trouver des occasions pour rencontrer aux gens. Voilà.
Est-ce que vous trouvez ça dommage que la Cité Fertile s'arrête bientôt?
Oui, comme tout le monde, toute l'équipe et tous les visiteurs, tous les partenaires, moi je trouve extrêmement dommage. Il y a des potagers, il y a des abeilles, il y a des très très jolies ambiances, il y a des salles très sympas, c'est ouvert à tout le monde. On a besoin des lieux comme ça.
Un jardinier qui cuisine son potager, ce n'est pas banal. À la Cité Fertile, nous avons rencontré un jardinier du nom de Christophe. Il fait partie de l'association La Sauge et il nous a expliqué son travail. Vous devez trouver ça bizarre de cuisiner son potager, non? Laissez-nous vous expliquer.
En fait, les jardiniers utilisent une technique spécifique, la lasagne. Cette technique consiste à accumuler des couches de différents composants naturels et ça fait penser à une lasagne.
Pour nourrir la terre, les jardiniers utilisent du compost fabriqué à partir de matières fécales, des restes de nourriture et de déchets végétaux.
Mais comme on est en hiver, leur forme nous a plutôt fait penser à des tombes. Ce potager est cultivé par Christophe et des enfants d'une école primaire du quartier.
C'est pas vraiment moi qui jardine ici. Ce sont les enfants. Ce jardin, c'est un support pour un projet pédagogique. Le programme pédagogique s'appelle « De la graine à l'assiette ». Donc c'est un programme pédagogique pour sensibiliser les jeunes publics aux enjeux écologiques à travers le jardinage et l'agriculture. Donc ça, on le fait ici avec l'école Sadi Carnot de Pantin, qui est donc juste à côté, de l'autre côté de la gare, par rapport à la Cité Fertile. Donc il y a 4 classes, 2 classes de CM1 et 2 classes de CE1. De la rentrée scolaire jusqu'en juin, on intervient toutes les 2 semaines dans chaque classe et on essaye de faire beaucoup de pratiques. Donc en fait, principalement, ils viennent ici.
Que cultivez-vous?
Qu'est-ce qu'on cultive? Alors, c'est du potager, donc on va essentiellement cultiver des légumes. On fait un petit peu de plantes aromatiques et de petits fruits aussi. Il y a des framboises, des fraises, des mûres, des groseilles, etc. Normalement, toutes les plantes que vous voyez là qui poussent, là, il n'y a pas grand-chose. On est en hiver, mais il y a quand même un peu des fèves, d'épinards, de betteraves, de roquettes. C'est eux qui ont tout planté. Au premier trimestre, on aborde le terme de la biodiversité. Au deuxième trimestre, comme on est en hiver, là, il n'y a pas grand-chose, il se passe pas grand-chose au jardin. Donc là, on va parler des déchets et de la consommation durable. Et au troisième trimestre, là, comme on arrive au printemps, là, on parle vraiment de jardinage, d'agriculture. On fait ça parce qu'on pense que, en gros, l'écologie et l'agriculture, enfin, l'alimentation, c'est des thèmes pour nous qui sont aussi importants que l'histoire, géographie ou le sport ou le français et les maths. Et qu'à cet âge-là, on doit savoir ces choses-là pour se préparer à l'avenir, pour être un citoyen éclairé, voilà, dans notre société.
Est-ce que vous utilisez des pesticides dans votre potager?
Pas du tout. Justement, nous, on promeut une agriculture qui respecte le vivant. Donc, jamais de produits, on fait du jardinage, de l'agriculture durable et écologique. Quand on travaille sans pesticides, on va essayer de travailler avec le vivant. Par exemple, quand vous utilisez des pesticides, c'est que vous avez des ravageurs de culture. Ces ravageurs de culture, en général, sont des insectes, des animaux, qui ont des prédateurs. On va essayer dans notre jardin d'attirer les prédateurs de ces ravageurs de culture. Et donc en fait, on essaye d'avoir un équilibre. On prend un peu comme un modèle la nature en fait. Dans la nature, il y a un équilibre. Et donc ainsi, on aura toujours un tout petit peu de ravages, mais on aura des ravages qui ne seront pas significatifs. C'est-à-dire qu'on aura toujours une récolte signifiante. Par exemple, là vous voyez, c'est tout petit, mais vous avez des fèves qui poussent dans ces parcelles. Donc les fèves, c'est de la famille des petits pois, des haricots, etc. Les fabacées, tout ça, souvent, c'est attaqué par des pucerons. Donc nous, au lieu de détruire le puceron et de mettre des produits pour détruire le puceron, qu'est-ce qu'on fait? On va attirer des coccinelles. Les coccinelles sont des prédateurs des pucerons. Si vous attirez les coccinelles dans votre jardin, vous aurez toujours un petit peu de pucerons sur certaines tiges de vos fèves, mais vous aurez toujours des plants qui vont produire des fèves, quoi qu'il arrive. Quand les premiers pucerons arrivent, surtout ne pas les détruire, parce que sinon, les coccinelles ne viendront jamais. Et si vous utilisez des produits pour détruire les pucerons, ces mêmes produits détruiront les coccinelles. En fait, il faut laisser les premiers pucerons, il faut utiliser d'autres plantes qui vont attirer les coccinelles. Vous pouvez utiliser d'autres plantes qui attirent des pucerons. Par exemple, on utilise souvent la capucine. La capucine, c'est une plante qui fait très volubile, qui fait très jolies fleurs qui sont comestibles d'ailleurs. Et les pucerons viennent aussi manger des capucines, et dans ce cas-là, voilà, on aura une colonie de pucerons qui vont attirer une colonie de coccinelles. Ensuite, quand les coccinelles sont installées au jardin, on est relativement tranquille.
Pourquoi est-ce important de faire de l'agriculture urbaine? Est-ce que ça contribue à inventer la ville de demain?
Oui, alors c'est important pour plusieurs aspects. Il y a déjà le fait qu'en ville, dans les villes très denses, on a tendance à être déconnecté de la nature, que ce soit de la forêt, des campagnes et des champs. Enfin, la production agricole se fait dans un milieu naturel. Comment, en fait, en ville, on n'est pas au contact de régions rurales et on ne voit pas trop comment ça fonctionne, la nourriture, comment on produit notre alimentation. Et je pense que savoir comment est produit notre alimentation est vraiment quelque chose d'important. La production de nourriture, la nature, la biodiversité, c'est un écosystème qui va ensemble. Ça nous permet aussi de revégétaliser la ville avec une utilité, quoi, qui est de ressortir de la nourriture. Voilà. Même si, avec l'agriculture urbaine, on ne va pas nourrir les villes, hein. On ne pourra pas rendre les villes autonomes, ça, on est clair là-dessus. Mais voilà, ça permet aussi quand même d'avoir une petite part de production qui reste locale et que les gens puissent aussi un petit peu produire eux-mêmes, que ce soit dans des petits jardins partagés chez eux, etc., que les gens puissent produire un peu une part de leur nourriture, quoi.
Quelles sont les études pour devenir jardinier?
Les études pour devenir jardinier, il y en a plein. Ça dépend quel type de jardinier on veut être. Moi, ce n'est pas mon premier métier, c'est mon deuxième métier. Avant, je travaillais dans l'informatique. Voilà, et j'ai fait une reconversion. À la base, j'avais quand même fait des études de biologie. J'avais fait des études de bioinformatique et biostatistique. Donc, j'avais des études de biologie. Et notamment, j'ai des bases en biologie végétale. Et c'est important de connaître la biologie végétale quand on veut jardiner. Et si on veut jardiner avec la nature, en respect avec le vivant, c'est aussi intéressant d'avoir des notions d'écologie. Donc moi, pour faire ma reconversion, ensuite, j'ai pratiqué par moi-même, on va dire. Donc je suis autodidacte. Je fais 3 saisons de pratique par moi-même, dans mon jardin personnel. Et puis, j'ai fait des formations en permaculture.
Pour vous, que représente la cité fertile?
Alors, pour moi, la cité fertile, c'est un lieu d'opportunité et de préparation à la transition écologique, je dirais. Qui va permettre en fait d'apporter des réponses pour la ville de demain, je pense, et qui permet aussi de présenter un modèle, de présenter des solutions pour demain, pour les villes en transition, etc.
Tout ça nous a donné faim. Comment mangerons-nous dans le monde de demain? À la cité fertile, il y a une ruche qui dit oui. Rien à voir avec les abeilles de Volcan. C'est une plateforme de vente en ligne qui met en lien les producteurs et les consommateurs.
Mathis est gérant de la ruche qui dit oui. Il s'occupe de trouver des producteurs qui vendent directement leurs produits. Des produits frais et souvent bio. La plupart des produits viennent de moins de 60 km de Pantin.
Les produits sont à des prix justes, c'est-à-dire que le producteur s'y retrouve financièrement. Des fois, ça peut coûter plus cher, mais pas forcément. Malgré tout, c'est bon pour la planète.
Nous avons demandé à Mathis pourquoi il s'était engagé dans la ruche qui dit oui.
Déjà, c'était par conviction au début. Je voulais participer à mon échelle, on va dire, à quelque chose de plus vertueux. Au début, j'achetais mes produits à la ruche qui dit oui. Pas tout, mais une bonne partie. De fil en aiguille, je suis devenu bénévole pour aider la personne qui était là. Et voilà, du coup, je suis devenu responsable de ruche après, quoi.
Est-ce que tout le monde peut entrer dans la ruche qui dit oui ou y travailler?
Eh bien, oui, on peut. Alors déjà, en tant que membre, tout le monde est invité à venir à la ruche qui dit oui. Il suffit juste de s'inscrire sur le site et de passer une commande. Et ensuite, pour mon cas, responsable de ruche, c'est ouvert à tout le monde. Il faut s'intéresser quand même un minimum au système de production, à l'économie circulaire aussi, à avoir des notions aussi un peu d'écologie, quoi. Mais c'est ouvert à tout le monde, hein. C'était pas du tout mon métier de base. J'ai fait ça, on va dire, à côté. Et c'est aussi par conviction personnelle.
Pourquoi la ruche a-t-elle été créée?
C'était pour répondre déjà aux besoins des producteurs de pouvoir vivre déjà dignement. Ensuite, ça donne une dynamique économique qui est vraiment vertueuse. Il y a plein de gens qui peuvent être producteurs et vendre leurs produits à la ruche, des produits qui sont sains, qui sont produits de manière raisonnée, tout ça. Les membres, ils peuvent consommer des produits bons pour l'assiette et bons pour la planète. Et c'est vrai que être responsable de ruche aussi, c'est super bien parce que moi, personnellement, à côté du boulot, c'était un vrai plaisir. J'ai adoré, quoi.
Pensez-vous que la ruche et la cité fertile contribuent à innover le monde de demain ?
Ça fait partie d'une vision de l'avenir qui me paraît tout à fait crédible, en fait, et même enviable, finalement. Je milite pour voir ce monde à grande échelle, quoi.
Nous devions aussi interviewer Tabernature. C'est le surnom d'Ophélie. Malheureusement, elle n'a pas pu être là. Mais on ne s'est pas laissé abattre. Nous avons demandé à Amélie de nous parler du travail d'Ophélie.
Vous avez peut-être déjà vu Ophélie sur les réseaux. Ophélie a tout plaqué pour venir travailler ici. Elle est arrivée en 2019. Elle travaille dans une serre qu'elle a construite elle-même. Son travail consiste à démocratiser l'agriculture en ville. Elle fait beaucoup d'ateliers pour tous ceux qui veulent apprendre à jardiner. La plupart des ateliers sont gratuits. Elle pense que tout le monde est capable de jardiner.
Elle fait aussi des vidéos sur les réseaux. Elle a écrit un livre qui s'appelle « Petite manifeste de végétalisation urbaine ». Et elle fait de la green guérilla. Mais au fait, c'est quoi la green guérilla ?
La green guérilla, c'est un peu dire « la ville m'appartient et j'ai pas besoin de demander l'autorisation de quelqu'un pour planter quelque chose. Une carotte, une fleur, ce que je veux, j'ai pas besoin de demander l'autorisation. » Et donc, c'est le principe de « on va se réapproprier notre ville et on va revégétaliser notre ville ». Donc, notamment les bombes de graines, ça permet de planter des choses. Donc, vous prenez votre petite bombe, donc de l'argile, une bombe, hop, vous la lancez dans n'importe quel endroit, elle va exploser, arriver sur la terre, et ça va permettre de mettre une petite graine, souvent dans les endroits inaccessibles. Ça vient de New York, tout était un peu détruit. Et en fait, ils prenaient des bâtiments détruits, ils lançaient par-dessus des bombes de graines, plein de bombes de graines, ça végétalisait au bout de plusieurs mois l'espace, et ensuite ils appelaient la mairie, ils disaient « Coucou, on a végétalisé un endroit, est-ce que vous pouvez ouvrir la porte ?» Comme ça, ça devient un parc. Ils contournaient un petit peu le système.
La cité fertile fermera ses portes en octobre 2022 pour laisser place à un éco-quartier. Vous n'avez plus que quelques mois pour y aller. C'est ouvert tous les jours à partir de midi.
Ce podcast a été réalisé par les élèves de la classe de 4e C du collège Jean-Jacques Rousseau au Pré-Saint-Gervais. Mathias.
Marouane.
Gabin.
Abdelhadji.
Firdaus.
Léo.
Saïdou.
Sakti.
Marielle.
Rose.
Milena.
Vivetiga.
Yacine.
Lalia.
Léni.
David.
Selma.
Ange.
Sébastien.
Brian.
Lina.
Maïsen.
Kenza.
David.
Marus.
Mariam.
Avec Laure Vatrin, journaliste de l'association Transsonore, Valérie Mahout et Nicolas Agenot, de la bibliothèque François Mitterrand au Pré-Saint-Gervais, et notre professeure Sophie Payard.